Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM. Ce soir, nous allons parler d'une catégorie professionnelle peu connue, les enquêteurs de l'INSEE, qui réalisent les opérations de collecte des données qui servent à calculer le taux de chômage, l'indice des prix ou encore les augmentations de loyers. Pourtant, ce personnel indispensable au fonctionnement de l'INSEE est depuis toujours précaire, travaille pour une grande majorité d'entre eux à temps partiel, sans congés payés et pratiquement sans couverture sociale. Pour obtenir un statut qui reconnaisse leur qualité professionnelle, ils sont en grève depuis janvier 2012 et nous recevons pour en parler ce soir Christine, enquêtrice à l'INSEE depuis 10 ans, et Olivier, ancien enquêteur INSEE. Si nous avons un peu de temps par la suite, nous parlerons des suicides, du nouveau suicide à la Poste et du suicide à la CPAM, et puis des profs, bien entendu, au cœur de la campagne. Et puis nous donnerons un petit coup de chapeau aux ouvriers de Florange.
Excusez l'inexcusable.
Voilà, un tout petit problème technique. Bonsoir Christine,
bonsoir
Olivier. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau, puisqu'en fait on parle assez peu de la grève des enquêteurs de l'INSEE. Sachant que, effectivement, un enquêteur INSEE, je ne suis pas sûr que la majorité de la population sache ce que c'est. On connaît bien l'agent recenseur qu'on croise de temps à autre et à qui on doit remplir sa feuille bleue et sa feuille logement et sa feuille individuelle de personne individuelle. Mais un enquêteur INSEE, ça, les gens ne savent assez peu que l'INSEE fonctionne en partie pour certaines de ses statistiques sur les enquêtes. Alors peut-être que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le métier d'enquêteur INSEE.
Tout à fait. Alors bon, je voulais dire avant tout qu'en 15 ans, le métier d'enquêteur a énormément évolué. C'est vrai qu'avant, il n'était pas considéré. C'était simplement donc les retraités qui faisaient ça en plus de leur retraite, je dirais. Mais depuis, c'est devenu un réel métier. Alors je vous explique. Le métier d'enquêteur nécessite de nombreuses qualités. L'INSEE, c'est l'indice des prix sur le terrain. Chaque jour, pour connaître par exemple la hausse ou la baisse de l'essence, des produits frais, yaourts, poissons, viande, etc. C'est le taux de chômage ou l'emploi dans les différents secteurs d'activité. C'est interviewer les hommes et des femmes chez eux, dans les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite, les centres psychiatriques, les crèches, pour savoir par exemple s'il en manque et où sont les priorités. Mais aussi les centres d'hébergement, les cités, les SDF, les squats, souvent dans les lieux de non-droit. Nous pouvons subir des agressions, des insultes, être volés ou même se retrouver dans un lieu de braquage, comme ça m'est arrivé récemment avec un revolver. Il faut savoir être tolérant, s'adapter à toutes les mentalités et religions, musulmans, juifs, bouddhisme, qui ont des spécificités, mais aussi à toutes les cultures, aussi bien japonaises, ougandaises, chinoises, pakistanaises. Dans les cités, le soir tard, il faut savoir s'y prendre avec les jeunes. Et puis demain, ce sera un notaire, un procureur, un flic, un PDG ou un haut fonctionnaire. Convaincre pour avoir des rendez-vous. Il faut être diplomate, chaleureux, psychologue, puisque nous appelons les gens tard le soir lorsqu'ils reviennent du travail. Nous devons nous adapter à leur temps libre en travaillant le samedi et parfois même le dimanche. Ce n'est jamais une rencontre anodine, puisque nous rencontrons la personne à son domicile, dans son intimité. Ce sont parfois des moments de vie intenses, extraordinairement enrichissants, mais aussi très éprouvants, qui balayent très vite vos préjugés. Il y a les agressifs, les haineux, des frustrés, des gens qui ont des maladies graves, des gens qui viennent de subir aussi un décès. Il y a aussi les gens joyeux, heureux de vous recevoir, respectueux. beaucoup de gens seuls qui, après l'enquête, se confient. En quelques minutes, ils vous dessinent leur vie, leur joie, leur peur, leur frustration, leur souffrance. Les jeunes, les riches, les malades, les heureux, les blasés. Tant d'anecdotes au fil des jours qui tissent le vrai visage du peuple. C'est ça, après 12 ans d'enquête. Je me sens comme un miroir, le miroir du peuple au quotidien, un vrai livre de sensations.
Oui, alors après, à travers ce texte, on a une petite idée du quotidien d'enquêteur. Mais alors concrètement, est-ce que tu peux alors m'expliquer, on a bien compris, l'enquêteur, c'est celui qui va chez les gens, tout simplement, oui. Pour des gens qui ont été tirés au sort, pour récolter les données de l'INSEE, donc entre autres les enquêtes de l'INSEE, les grandes enquêtes.
Oui, les enquêtes santé.
L'enquête emploi, qui est une grande enquête de l'INSEE,
loyer
qui a lieu
et charge.
Permanence. Loyer et charges, qui mesure les augmentations de loyer.
Sécurité, la délinquance, très
alors,
important.
Alors sécurité, récemment, j'ai envie
en
dire.
En ce moment.
Donc qui complète les chiffres de délinquance. Et l'indice des prix aussi.
Tout à fait.
Qui est censé mesurer l'inflation. Et donc le quotidien d'un enquêteur, c'est quoi, par exemple ?
Eh bien voilà, donc nous partons à 8h30 du matin, nous prenons notre voiture personnelle, puisqu'on utilise notre voiture personnelle. Donc nous allons sur nos lieux de rendez-vous. En moyenne, nous avons à peu près, moi j'ai 5 enquêtes par jour, donc j'en fais 2 le matin, 3 la journée, en sachant que j'en ai une où j'ai un rendez-vous à par exemple 20h45, parce qu'il y a des gens qui rentrent très tard, donc nous on fait en fonction des personnes aussi.
Oui, c'est-à-dire que tu peux être à la fois disponible très tôt le matin et
très
tard.
Oui, voilà. Donc on est obligé de gérer tout ça. Et on gère aussi une deuxième chose, c'est-à-dire qu'en étant sur place, vu que l'INSEE ne nous rembourse pas nos frais d'essence, n'ont pas réévalué les frais d'essence depuis 2 ans, et que l'essence a énormément augmenté, on est obligé de gérer ça aussi. Donc, quand on est sur place, quand j'ai une heure de trou, par exemple, eh bien, je fais du repérage pour les prochains foyers enquêtés. J'essaye de gérer mon temps, voilà.
Donc, globalement, ça te fait quand même des horaires assez extensibles.
Ah oui, oui.
Tu commences à 9h, tu finiras à 21h, et il faut combler les trous entre-temps où tu ne travailles pas.
Oui.
Et tu travailles aussi le samedi.
Et voire des fois le dimanche. Ça m'est arrivé qu'un magistrat, d'ailleurs.
Et tu as le droit de travailler le dimanche ?
Non.
Mais l'enquêté ne te laisse pas le choix, peut-être.
Et exactement.
Et ça fait du combien d'heures par semaine, ça ? Ça fait du 50 heures, du 60 heures ?
On ne peut pas compter. C'est impossible parce que c'est tellement éparpillé. C'est ça le problème de nous, le métier d'enquêteur. C'est que, on ne peut pas calculer le nombre d'heures. C'est tellement énorme.
Alors, ça, c'est. Donc, on a bien. Toi, tu fais ce métier à temps plein.
Oui, à temps plein.
Et donc, ton salaire est à peu près correct. On peut dire.
Jusqu'à maintenant, oui.
D'accord.
Parce qu'on est payé à l'enquête.
Est-ce que c'est le cas de tous les enquêteurs de l'INSEE ?
Il y a beaucoup d'enquêteurs qui travaillent à temps partiel. Ils sont obligés, sinon, ils ne pourraient pas s'en sortir. Voilà.
C'est-à-dire que l'INSEE ne retrouve pas forcément assez de travail pour faire un temps plein.
Oui, on n'est que 10% d'enquêteurs qui travaillent à peu près à temps plein, parce que tout le reste, ils travaillent à temps partiel.
D'accord. Donc, ça fait pas beaucoup quand même.
Et pour ces 10%, la fourchette de salaire, c'est combien ? C'est de 1500, 2000 euros à peu près ?
Oui, à peu près. D'accord. Mais là-dedans, il y a nos frais.
Il y a les frais.
Ça, il faut les déduire. Oui. Parce que... Ah oui.
Et donc, le salaire médian des gens de l'INSEE, c'est à peu près 800 euros.
Oui, c'est ça.
Personnel
oui, voilà, c'est ça.
Sachant que les enquêteurs en province sont beaucoup moins bien lotis que les enquêteurs parisiens.
Oui, tout à fait.
Puisqu'en Ile-de-France, il y a beaucoup plus d'enquêtes. Alors, il y a une particularité quand même des enquêteurs INSEE qu'il faut noter, c'est que. Tu es payé, tu l'as dit, entre 1500 et 2000 euros. Alors, sachant que ça varie régulièrement chaque mois.
Ah, mais c'est variable. Attendez, il y a des mois où j'ai que 800 euros.
Voilà. Donc
c'est ça, la difficulté du métier de l'enquêteur.
Et alors, justement. Il faut payer quand même l'essence. Il faut payer l'essence. Il faut payer les réparations de la voiture. Il faut payer la ligne téléphonique.
Oui, pour ceux qui n'ont pas de...
Ah oui, parce
qu'on est obligé.
On est obligé d'avoir une ligne téléphonique pour transmettre nos enquêtes le soir. Et donc, on l'a uniquement pour l'INSEE. Mais l'INSEE ne nous rembourse pas, la ligne téléphonique.
D'accord. Et alors, donc, cette particularité, en fait, d'avoir des variations importantes d'un mois à un autre, c'est lié à votre statut, parce que finalement, vous avez un statut...
De pigiste.
De pigiste vacataire.
Pigiste vacataire. Donc c'est instable, c'est très dur à gérer puisqu'on n'a jamais les mêmes revenus. Quand je dis une moyenne de 1500 euros, mais des fois il y a 800 euros seulement.
Vous êtes payé à la tâche.
On est payé à la tâche. Voilà.
À ce que vous faites en fait.
Voilà.
Sans compter tout le
travail.
Et il
y a les mois d'été par exemple, il y en a beaucoup moins d'enquêtes. Donc là, le salaire descend aussi. Donc c'est jamais régulier. et c'est très dur à gérer.
Et tout dépend du travail que te donne l'INSEE. En fait, tu n'as aucune prise là-dessus.
Bah, comme on n'est que vacataire, on dépend entièrement de ce que l'INSEE va nous donner comme travail, évidemment, de charge de travail.
Il n'y a pas de salaire fixe comme chez les commerciaux, des fois, où
non.
On a 500 euros de fixe
par mois. Ah, bah nous, on n'a rien du tout. Hein. Alors là,
c'est bien là on est le problème.
Plus mal lotis. Hein, les...
Alors, ce statut de vacataire, donc bon, alors effectivement, tu es payé à la tâche, les contrats qui sont renouvelables. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il en est des vacances?
Les vacances, en fait, on a soi-disant des congés payés, imposés. C'est-à-dire qu'on nous donne des semaines blanches, on appelle ça en semaine blanche. Et en fait, c'est très léger, quoi. C'est très léger. Ça fait compris de notre salaire, en fait. Quand je dis 1500 euros, il y a aussi là-dedans les congés payés.
D'accord. Donc c'est 15 jours dans l'année, à peu près deux semaines par an.
Voilà. Donc c'est pas grand-chose. Donc en fait, quand on se retrouve en période de vacances réelles, on travaille, nous, pendant les vacances, parce qu'on n'a pas le choix, quoi.
D'accord.
Donc tu disais congés payés, plus éventuellement la précarité, évidemment.
Oui,
Donc compris dans le salaire.
Voilà, compris dans le salaire.
Alors ça, c'est dans le droit privé. Normalement, la prime de précarité, les congés inclus, mais ça, je veux dire, c'est quelque part dans les textes de l'INSEE qu'on est vraiment payé. En principe, ça devrait être compris, quoi.
On va
comme ça. Donc finalement, tu n'as pas l'impression de voler ton salaire.
Oh là là, non, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, oui.
Alors, il y a une particularité du statut INSEE qui est vraiment très particulier, c'est que, donc à l'INSEE, c'est que l'État déduit 40% s'exonère de 40% des charges. Qu'il devrait payer normalement. C'est-à-dire qu'en résumé, l'État ne paye des charges que sur 60% du salaire, et que les 40% d'autres étant exonérés, gracieusement.
Dans la mesure où il ne donne pas un salaire, dans la mesure où il ne donne pas un salaire global, défini, et qu'une grande partie sont payés par des frais, en réalité, c'est vite vu.
D'accord.
Il prend très très bien le système.
D'accord, donc il joue sur les frais pour en fait abaisser la
voilà.
Donc ça par contre ça pèse sur le statut des enquêteurs parce que du coup il y a pas de par exemple de couverture maladie, on peut pas tomber malade.
Non, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'avoir d'accident de travail parce que moi j'ai été en accident de travail il y a pas longtemps.
Et tu as été indemnisé combien?
400 euros.
Voilà.
Donc,
donc t'es obligé indemnisé par la sécurité sociale.
Par la sécurité
sociale. Voilà, sur la base de 60% de ton salaire. Voilà. Donc et pour la retraite?
Bah oui, que rien.
Voilà. Et pour le chômage?
Rien.
Voilà. Donc l'État, est le premier employeur précaire de France, je tiens à préciser.
Absolument.
Et en l'occurrence, il se met plus ou moins dans l'illégalité en pratiquant ce truc.
Il faut le dire.
Parce que le droit privé l'interdit.
Il interdit d'embaucher des gens en CDD aussi longtemps.
Ah bah, une entreprise privée serait très largement condamnée. Et très lourdement condamnée.
Alors voilà, on a compris que votre statut n'est pas de tout repos, de rêve. L'État s'est enquis quand même s'est ému de votre situation et a décidé de réformer ce statut pour...
Oui, disons, on l'a cru.
Voilà. Alors, il y a deux ans, on commençait des négociations.
Tout à fait.
Des négociations qui visaient à stabiliser... le réseau enquêteur, et donc à...
faire un CDI.
Voilà, faire passer
le
les
enquêteurs
au CDI. Et voilà, sécuriser le parcours du CDI et à lui donner un salaire fixe
pour
faire un espèce d'enquêteur fonctionnaire.
Voilà.
C'est d'avoir un fixe... Et alors, tu peux nous parler un peu de ces négociations?
Oui, tout est tombé à l'eau récemment.
Mais déjà oui. sur le fond, finalement, qu'est-ce qu'ils ont proposé?
Donc, ils avaient proposé, en fait, donc un CDI avec des grilles. Dans ces grilles, en fait, ils tenaient compte de l'ancienneté. Donc voilà, et il était aussi question de... Parce qu'ils avaient proposé donc la catégorie B, on demandait la catégorie C, enfin bon bref...
Vous avez demandé la catégorie B, ils ont proposé catégorie C.
Oui, c'est ça. Donc ça, c'était en négociation. Ensuite,
Et à la fin, la grille de salaire, finalement, c'était pour un enquêteur nouvellement recruté, c'était quoi?
Ridicule.
Le SMIC.
Un tout petit peu, un poil de plus que le SMIC, quoi. Après 10 ans d'ancienneté et d'autres voire, il y a des gens qui ont 30 ans d'ancienneté. Hein, et on était au même registre.
D'accord.
Donc, ce qui est quand même scandaleux. Et brutalement, alors là, le pire de tout, c'est qu'ils ont changé, depuis la réunion, là, il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps, là, au mois de février, avec donc la direction de l'INSEE. Et brutalement, ils ont sorti une loi, la loi Sauvadet. On ne sait pas d'où elle vient, cette loi.
Et elle a été votée le 1er mars.
Elle a été votée donc hier. Ouais. Et donc à travers cette loi, Alors, qui, en fait, pour se donner bonne conscience, l'INSEE veulent adopter cette loi parce que c'est soi-disant un CDI, mais en fait, c'est un faux CDI. C'est-à-dire qu'on serait encore plus précaire qu'avant.
Alors, oui, alors là, il faut comprendre. Donc, et en fait, il existe déjà des enquêteurs qui sont en CDI, mais qui sont des enquêteurs pigés. C'est-à-dire qu'on, le CDI garantit juste une charge de travail, est censé leur garantir une charge de travail à peu près correcte, sachant qu'ils sont toujours payés à la pige et qu'ils n'ont pas plus de droits que, en fait, que les autres.
Oui.
Au fond, c'est, et finalement, c'est ce qu'on vous propose. Aujourd'hui.
En fait, on nous propose, mais c'est pire qu'avant, puisqu'en fait, non seulement, bon, on n'aura évidemment pas le droit au chômage, pas le droit à la retraite, aucune sécurité d'emploi, mais avec diminution d'enquête en plus. Ça veut dire qu'en gros, bah, notre salaire il va chuter de 50% et on se retrouvera toujours pigiste. Voilà.
Oui, parce qu'ils vous, maintenant, ils vont payer les charges.
Voilà.
Dans ce cas-là, ils vous feront baisser le salaire
de
50%.
Donc, c'est un...
Tout en étant pigiste, donc c'est une régression.
C'est une régression, voilà. C'est inacceptable. Oui. Vous vous rendez compte des gens qui sont enquêteurs de l'INSEE depuis 30 ans. 30 ans.
Oui, c'est ça. Il y a des vacataires perpétuels depuis 30 ans.
Perpétuels, qui font un travail remarquable. Ils sont vraiment plus que professionnels. Ils ont bac plus 10, quoi. Va. Oui. Et là, d'un seul coup, on les ramène à la caisse départ. Non. C'est insupportable.
Oui, parce qu'il faut préciser que le métier d'enquêteur, c'est beaucoup d'expérience, en fait.
Hein, c'est beaucoup d'expérience.
De contact avec le terrain, de négociation.
Ça, de diplomatie.
De diplomatie.
Il faut savoir aussi, bon, moi j'aime bien souligner les choses, mais le métier d'enquêteur, c'est on est partout. Moi, par exemple, je me retrouve dans un hôpital psychiatrique avec plein de médecins autour d'une table, très inquiets. En face de moi, j'ai un schizophrène qui de temps en temps a des gestes violents. Je me protège parce que les médecins me font des signes. Donc c'est moi qui fais le débat, je fais l'enquête, tous les médecins m'écoutent, prennent des notes, et à côté il y a quelqu'un qui gère le schizophrène qui peut éventuellement me taper dessus. Il y en a un jour qui m'a arraché l'ordinateur pour me taper avec. Mmh. On est confronté à tout ça, les prisons, on va dans les prisons. Mmh. Moi j'ai une collègue qui est vraiment en ce moment déprimée parce qu'elle a énormément de prisonniers donc pour l'enquête communauté, hein, je parle.
Mmh. Recensement des communautés.
Oui, recensement des communautés. Et là, elle me dit, j'en peux plus parce que nerveusement, c'est très dur puisqu'en fait, elle n'a pas le droit de voir les prisonniers. Mmh. Donc, il y a un intermédiaire qui se charge de distribuer les documents. Mmh. Après, c'est très difficile pour les récupérer. Mmh. Bon, il y a tout ça. Les enquêtes INSEE, c'est tout ça.
C'est les cités aussi.
Alors, surtout les cités. Alors, les cités. Alors, moi, je suis en plein dedans. Hein. Mmh. Moi, je travaille dans les cités d'Orly, Choisy-le-Roi. Villeneuve-Saint-Georges, je peux vous dire que c'est les plus chaudants, après que le 93. Hein. J'ai réussi à dialoguer avec tout le monde, c'est le travail de l'enquêteur. Je vois les jeunes cagoulés le soir très tard qui viennent vers moi. Je leur dis bonjour parce que moi je suis toujours courtoise et polie et je leur explique que je suis là, voilà, pour faire des enquêtes et tout, pour l'emploi, tout ça. Ils ne m'agressent pas puisque je suis correcte avec eux. Bon, exprès pour les apprivoiser, je leur dis, pouvez-vous m'indiquer...
Apprivoiser, attention, je ne fais pas des...
Non, quand je dis apprivoiser,
il faut préciser que 80% des enquêteurs sont des femmes.
Oui, alors...
qui vont dans les cités
pas évident,
faire...
83% des femmes sont des femmes, oui, sont des femmes, exactement. Okay. Et il faut savoir aussi que l'enquêtrice qui est toute seule, qui se retrouve dans une cité... et qui a un rendez-vous, elle ne sait pas où elle va tomber. Mmh. Et des fois, il y a des cas... moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans un appartement où le monsieur avait fermé derrière moi la porte à clé. Et j'étais vraiment très inquiète parce que tout pouvait arriver. J'étais toute seule chez lui. Bon, c'est aussi tous ces risques-là.
Et la prime de risque, vous n'avez pas de prime de risque?
Je ne sais plus combien c'est. Ça doit être 3,70 €, un truc comme ça.
Ah, c'est bien, ça. C'est
une zone urbaine sensible. Mais,
juste une information supplémentaire par rapport à tout à l'heure. Il y a 1000 enquêteurs à l'INSEE, a priori, des chiffres que j'ai gardés. Et il n'y a que 30 CDI actuellement, CDI précaires, comme on a dit
ça. Sur 6000 agents.
Combien 6000 agents? Sur le national,
6000 agents. 6000 agents fonctionnaires. Ce statut, c'est vrai que ne reconnaît pas la vraie compétence de l'enquêteur.
Ah non, du tout.
C'est-à-dire qui n'est pas fait seulement, effectivement, de taper sur ordinateur, mais qui est fait à la fois de connaissance du terrain.
On est méprisé, les enquêteurs. Franchement, on est méprisé. Et moi, je peux vous dire aussi... nous, on représente l'image de l'INSEE. Quand les gens nous accueillent et nous reçoivent parce que c'est l'INSEE, on est reconnu par ces gens-là, mais on n'est pas reconnu par l'INSEE. Et on est au contraire matraqué par l'INSEE. On est vraiment sous-estimé. Voilà.
C'est-à-dire que l'INSEE a une bonne image.
A une bonne image. Nous, on a une bonne image, puisqu'on représente cette image. Mais eux ne respectent pas l'INSEE.
Alors il faut expliquer que bon, ces négociations ont été voulues par Sarkozy dans le cadre de la lutte contre la précarité dans la fonction publique. Alors on serait tenté de lui dire que quitte à s'occuper de la fonction de la précarité dans la fonction publique, peut-être qu'il pourrait s'occuper des profs, par exemple. Parce que c'est sûr qu'en précarisant les 10 profs, après c'est compliqué de leur parler de lutte contre la précarité. Elle a été voulue sans réel moyen financier, a priori. Hein. Donc le passage du statut d'enquêteur pigiste à un statut d'enquêteur fixe devait se faire à masse salariale constante, ce qui impliquait forcément une perte de salaire pour les gens de l'INSEE, pour les enquêteurs de l'INSEE.
Sans véritablement de volonté politique, parce que mettre tout le monde en CDI, ça coûte de l'argent à l'État. C'est la crise, comme faut quand même vous dire. Je dis ça en rigolant, mais c'est...
Ouais, c'est-à-dire que toutes les propositions qui arrivent, en définitive, sont des propositions de baisse de salaire qui visent qui conduisent à déstabiliser le réseau enquêteur en tant que tel.
Oui, et moi j'aurais attiré l'attention quand même, beaucoup d'hommes politiques parlent aujourd'hui de réindustrialiser la France. Hein. Nous aimerions savoir comment l'État compte s'y prendre sans les données statistiques confidentielles recueillies par ces personnes d'enquêteurs ultra compétents et accrédités. Dans une période de chômage extraordinaire, les citoyens sont en droit de savoir comment les chefs d'entreprise, les commerçants vont pouvoir implanter leur usine, leur commerce, sans ces données marketing stratégiques essentielles, absolument nécessaires à leur création et leur développement, données par ailleurs commercialisées par l'INSEE. Après tout, ce sont leurs informations personnelles et confidentielles que nous collectons. Il semblerait qu'il y ait un désir de casser cet outil de haute valeur ajoutée ou peut-être forcer les collectivités locales qui en ont terriblement besoin à reprendre le bébé. Aujourd'hui, 1000 employés sont actuellement pigistes en CDI alors qu'ils travaillent à temps complet pour certains depuis plus de 20 ans en dehors de toute législation sur le travail rattachée au ministère des Finances. Ils n'ont aujourd'hui aucun statut. Les négociations avec les syndicats depuis 2 ans ont été bloquées le 14 février 2012. La direction de l'INSEE menace de se référer à cette nouvelle loi Sauvadet qui va encore plus précariser ces milliers d'employeurs répartis dans toutes les régions de France et l'Outre-mer. Sans tenir compte de leur ancienneté, je souligne leurs qualifications, leurs résultats, sans leur proposer de retraite décente, sans droit au chômage. C'est extraordinaire. Nous n'apparaissons dans aucune statistique. Nous sommes des clandestins. D'où les questions. Pourquoi, en divisant le salaire des enquêteurs par 2, les plonger dans la précarité? Pourquoi veut-on démembrer l'INSEE? Voilà, je pose la question à M. Sarkozy, s'il m'écoute.
Voilà, donc Sarkozy et l'INSEE, ça fait 2, vous l'avez entendu. Écoutez, on va s'écouter une petite musique, et puis ensuite on va reprendre sur la grève et les actions de grève.
Sera camarade. Bientôt, bientôt, je t'attends, camarade.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage. Je suis avec Gilles. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est Ludo au micro, Claude à la technique. J'avais oublié de faire les présentations au début. Et puis, je suis avec Christine, enquêtrice INSEE, qui nous parle du mouvement de grève. Christine et Olivier, qui nous parlent donc du mouvement de grève à l'INSEE. Et je crois qu'on a un auditeur en ligne.
Bonsoir.
Bonsoir, Joël.
Oui. Bonsoir.
Je t'ai reconnu.
Oui, je vais essayer d'être synthétique, je vais essayer. Deux choses. Premièrement, par rapport aux enquêtes, je ne sais pas si donc Christine se pose la question sur à quoi servent les enquêtes et sur quoi ça peut déboucher. Parce que effectivement, je peux comprendre cette histoire de précarité et tout ça. En même temps, après la description que vous faites des endroits où vous allez, c'est toujours un petit peu. Moi, ça me choque un peu, mais bon, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est d'un premier temps, c'est l'utilisation idéologique qui est faite de ces enquêtes. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus, ou vous êtes plutôt à vous mobiliser sur vos contrats et autres?
Alors, en fait, j'imagine que les enquêteurs INSEE défendent c'est la qualité de ce qui est statistique, hein, des enquêtes de l'INSEE qui sont, a priori, semble-t-il, reconnues relativement bien en Europe. Après, sur l'utilité, mais c'est tout le problème des politiques publiques qui est posé, et pas seulement celui de l'INSEE, c'est-à-dire cette espèce de patinage permanent que de toutes les réformes et de tous les outils qui ont été mis en place depuis les années 45. Donc, pour prendre un exemple simple, hein, c'est par exemple l'enquête emploi qui sert à mesurer le taux de chômage, en fait, grossit à mesure que le chômage augmente. Et le chômage, lui, n'a pas résorbé. Alors après, les histoires de manipulation statistique, bon, ici, à mode d'emploi, on est bien placé pour parler du recalcul du taux de chômage en 2007, hein, et du rétropédalage. Donc, mais les spécialistes sont rarement dupes, en fait, des tripatouillages statistiques. C'est une réponse. Voilà.
Peut-être que Christine a une autre réponse à donner, non?
Une autre question. Alors sur la description des cités. Bon, il faut savoir que c'est vrai que le contact en fait des enquêteurs avec donc dans les cités est nerveusement assez difficile. En fait, c'est vrai que
les gens ils habitent tous les jours dans les
Je sais bien, mais l'enquêteur y va tous les jours, il habite parfois dans la cité. Et le fait est que bon, c'est vrai, l'enquêteur peut à la fois côtoyer eh bien par exemple les gens qui touchent l'ISF et puis dans la même journée passer et de voir des conditions de vie qui sont très 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 dégradées. Donc ça nerveusement ça pèse, et je pense qu'il n'y a pas un enquêteur qui est insensible à ce qu'il vit au quotidien. Mais c'est vrai que des fois il y a des réactions de rejet chez certains enquêteurs qui sont pas forcément justifiables.
L'autre côté, c'est que les gens sont aussi harassés par toutes sortes de sondages, parce que ça en fait partie, de toutes sortes de sondages par téléphone ou autre, où effectivement, on sait bien à quoi aussi ça sert. Tout ça, c'est que effectivement, ça permet d'avoir une trame idéologique pour les patrons. Parce que moi, quand j'entendais parler tout à l'heure de pôle d'excellence pour les patrons, cette espèce de truc où effectivement on va donner quelques chiffres pour que les patrons puissent faire leur
Je te rassure, tout ça est payant, hein, si ça peut te... les patrons payent,
c'est très, gratifiant quoi pour les patrons, parce qu'effectivement ils vont pouvoir dire: regardez, nous on a ce chiffre là donc on va agir avec ce chiffre là quoi. Je pense que c'est ça le côté idéologique aussi de la chose.
Alors les chiffres sont publics, hein, c'est-à-dire que ils sont utilisés comme... non mais je veux dire par là que c'est pas de l'information qui est destinée spécifiquement à une telle ou telle catégorie, sauf effectivement de l'information économique. Or, je voudrais juste rappeler, hein, quand même que dernièrement, donc Madame Parisot a sauté sur une erreur de calcul de l'INSEE, donc qui effectivement établissait que le coût horaire en France était inférieur à celui de l'Allemagne. L'INSEE a rétabli tout de suite son erreur et s'en est excusé. Donc c'est bon, ouais, les choses sont pas aussi simples que d'aller dans un certain sens. Après, effectivement, on peut discuter de l'utilité globale de ces chiffres.
De l'utilité politique, surtout, de ces chiffres. Ce qu'en font les élus de ces chiffres aussi.
Moi, je voudrais souligner une chose, quand même. Le paradoxe pour un enquêteur INSEE, c'est que lui, il ne peut même pas répondre à une enquête emploi, puisqu'il n'existe pas.
Oui, enfin, parce que effectivement, ces conditions d'emploi font qu'il est hors cadre. Voilà. Donc,
cet
emploi qui est fait par des
précaires. N'est pas comptabilisé.
Je voudrais revenir quand même sur l'utilité des enquêtes. C'est quand même extrêmement important pour effectivement un jeune qui veut monter son entreprise de savoir s'il est, par exemple, dans la ferronnerie d'art, s'il a un débouché en Aquitaine, en Alsace ou ailleurs. Ouais. Alors si on lui dit qu'il y a déjà 60 entreprises qui font de la ferronnerie d'art, eh bien, il ira voir ailleurs. Il faut pas qu'il monte quelque chose alors qu'il va se casser les dents. Donc là-dessus, il va aller chercher de l'information, et de l'information d'une extrême et grande qualité. Et c'est ça qui est important, parce que c'est extrêmement fiable. C'est des techniques maintenant qui sont extrêmement pointues et qui permettent j'espère permettront encore, puisqu'on parle de l'emploi et de la réindustrialisation de la France, qui permettront justement à des gens qui ont des idées, qui ont envie de construire ou de s'implanter, de travailler, de produire français.
Voilà, donc ça c'est tout un débat actuellement de la campagne électorale. Joël, a priori on devrait avoir d'autres enquêteurs qui nous appellent. Tu as encore une question?
Je reste à l'écoute. Ouais. Il n'y a pas de problème.
D'accord.
Okay. Merci Joël pour ta question très politique.
Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Ciao.
Voilà, donc c'était... Alors moi je voulais revenir sur les actions de grève. Hein. Bon, alors, autant le dire aussi, les enquêteurs INSEE aussi tentent de se mobiliser aussi, aimeraient se mobiliser aussi pour le secteur privé où les choses sont bien pires, bien entendu, où les conditions sont bien plus dégradées. Alors comment se passe la grève depuis janvier 2012, Christine ?
Eh bien en fait, nous bloquons les prix, donc notamment le carburant, les produits frais. Donc cela veut dire aussi que la direction de l'INSEE méprise les usagers de la statistique publique en continuant de publier des données comme si le mouvement n'existait pas, comme si la collecte d'informations sur le terrain était normale.
Donc la fiabilité des dites statistiques laisse à désirer.
Exactement. Donc moi je devrais lancer un message à tous les journalistes et de leur demander d'arrêter de publier les chiffres, puisque depuis 4 mois donc il y a cette grève.
Bien, on fait l'appel, hein. Journaliste, arrêtez de publier les.
Voilà.
Il y a d'autres grèves, il y a d'autres enquêtes qui sont concernées. Oui.
J'aimerais savoir pourquoi vous faites grève. Parce que bon, il y a plusieurs choses dans votre métier qui sont. Vous êtes tous des professionnels, on l'a bien compris. Vous êtes très très mal payés.
Oui.
Demain, il y a une loi qui va sortir qui va vous précariser encore plus, a priori. Donc pourquoi vous faites grève? Vous faites grève pour quelles raisons? Pour simplement vos statuts
Pour être reconnu.
Pour être reconnu, d'accord.
Pour être reconnu, pour que le métier d'enquêteur soit reconnu, voilà.
Mais c'est surtout le problème, c'est aussi la baisse, j'imagine, la baisse de charge de travail.
Puis la baisse de charge, la baisse
c'est-à-dire
de salaire.
C'est-à-dire qu'en étant dans un statut de vacataire, rien ne te garantit tes revenus de demain, alors qu'il y a des gens qui travaillent, ça fait 10 ans qu'ils travaillent là. Alors évidemment, vous me direz, pour une entreprise privée, c'est du jour au lendemain, le salarié peut partir. Mais quand c'est l'État qui pratique cette espèce de double discours, à la fois à la sécurisation des parcours professionnels et puis qui emploie des précaires dont il peut se débarrasser du jour au lendemain, ça pose un peu plus de problèmes, d'autant quand on sert une administration qui, soi-disant, est extrêmement utile à la société. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes qui sont concernées par la grève? C'est-à-dire il y a les indices de prix.
Il y a l'enquête sécurité, comme je vous disais au début de l'émission. C'est une enquête sur la délinquance qui est très importante. Puis les loyers charges, c'est là actuellement. Ouais. Et puis j'espère pas les prochaines qui vont arriver. On a des grosses enquêtes qui arrivent.
Voilà, c'est-à-dire que bon, vous n'êtes évidemment pas payé quand.
Là,
quand
nous,
vous
en fait, mais nous, on est de bonne foi. Moi, c'est ce que j'ai dit l'autre fois à la direction de l'INSEE. J'ai dit, on est reconnu de l'extérieur, pas de l'intérieur. Maintenant, on vous demande une reconnaissance. On vous demande enfin un statut. C'est un vrai métier. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas à toucher des sommes extraordinaires. On veut simplement quand même un salaire décent. Ce que j'appelle un salaire décent, en tenant compte de nos frais réels et tout ça. C'est tout. Parce que moi, je pense à des gens comme moi, j'en fais partie, on a des prêts, tous les mois, on doit sortir tant d'argent. Et quand on voit que notre salaire de lycée, des fois, c'est pas ça. Et on est tout le temps dans l'insécurité de salaire, tout le temps dans le stress. On voudrait plus avoir ce stress, on voudrait être comme tout le monde. Et être comme tout le monde, c'est d'avoir un salaire, point, d'avoir des congés payés et de pouvoir dormir tranquille le soir. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'on demande.
D'accord. Donc après 10 ans de bon loyer service.
Oui, après 10 ans.
Voilà. Alors moi, il y a juste une chose qui me choque quand même, c'est le fait que la longévité de votre expérience n'est pas reconnue du tout par l'INSEE. Il devrait y avoir.
En principe, il y a une reconnaissance par la charge de travail, je suppose.
C'est vrai, alors on nous envoie des fois des notations, parce qu'en fait, on est noté, hein, on a des pourcentages à faire. Par exemple, on a des taux de réussite. Alors, moi, par exemple, je fais entre 80 et 90% de réussite. Il y, Il y en a d'autres 50, ça dépend les enquêteurs. Mais en moyenne, tous les beaux enquêteurs de l'INSEE, on est tous dans cette tranche 80-90%. Donc on respecte vraiment le taux, parce qu'il y a des taux à respecter, hein, dans l'Île-de-France comme dans toutes les régions de France. Et nous, on les respecte, on est dedans. On est des bons enquêteurs. Voilà, je veux dire, vraiment, les enquêteurs INSEE, actuellement, nous sommes des bons enquêteurs professionnels. Et je vous dis, je pense à mes collègues qui ont 30 ans de maison. Et franchement, 20 ans, 30 ans, 10 ans d'expérience sur le terrain. Donc voilà. Et donc, tout ça n'est pas reconnu, tout ça, tout ce professionnalisme.
C'est le moment de demander une augmentation, non ? Puisque vous êtes très professionnel.
Bah oui, c'est là le débat d'ailleurs.
Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que si Claude est prêt, je crois qu'on va repasser une petite musique. Bah, on va d'abord conclure, hein, sur ce chapitre en vous souhaitant bonne chance.
Oh. Et bah, j'espère que des élus vont nous écouter et faire quelque chose.
Voilà, sachant que les élections sont dans pas très longtemps et que voilà, d'ici là le statut sera peut-être passé ou pas, voilà, il y a une incertitude complète sur cette question. En tout cas, bon courage, on vous passe une chanson et on se retrouve avec les profs. Merci.
Je bois plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Bonsoir, bonsoir à tous. C'est toujours Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir Ensemble contre le chômage. Donc vous venez d'entendre le mouvement de grève des enquêteurs, un point sur la situation. Et donc on va passer aux nouveaux suicides qui ont eu lieu cette semaine à la Poste à Rennes et à la CPAM de Béziers.
Oui.
Oui, alors Gilles, est-ce que tu as plus d'informations que nous,
parce pas plus spécialement. J'ai lu comme tout le monde ce qui est écrit dans les journaux. Hein. Mmh. Donc effectivement, un mercredi soir, le 29 février, Thierry Hainaut se donne la mort dans les locaux de la Caisse d'assurance maladie de Béziers. Voilà, donc ça c'est l'information telle qu'elle est publiée dans les journaux. Il accuse par contre sa direction de l'avoir tué professionnellement et psychologiquement. Alors ça appelle quand même quelques réflexions, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en France, dans les sociétés françaises, dans les entreprises, il y a une pression sur les salariés qui est énorme. Donc les gens qui travaillent ne vont plus au travail avec plaisir, avec la joie au cœur. Ils y vont avec le truc au bidon, la peur du licenciement, parce qu'il y a la menace du chômage toujours qui pèse sur les salariés, et ils finissent par se donner la mort. Il y en a eu encore deux cette semaine, comme tu viens de l'expliquer. Et ça, il faut absolument que le MEDEF et Mme Parisot prennent en conscience ce genre de fait et qu'ils fassent des choses.
Alors là,
je sais pas comment faire.
Le problème,
mais bon,
c'est que t'as pas de chance, parce que là, ça se passe dans un service public. Donc en l'occurrence,
c'est la Poste. Alors, et la CPAM, bien sûr.
Alors la Poste, moi j'ai envie de dire que c'est dommage pour Bienvenue chez les Ch'tis, parce que qui a fait le succès de Bienvenue chez les Petits, c'était les conditions de travail idéales à la Poste de Burke, je crois.
Oui, c'est ça.
Bon, bah là, apparemment, c'est pas ça se passe pas aussi bien. La personne avait 28 ans, je crois, et elle était cadre supérieur. Et elle s'est défenestrée du dernier étage. Voilà. Donc effectivement, quand on suicide sur son lieu de travail, on peut peut-être estimer que il y a quand même un lien direct de l'un à l'autre, au minimum dans les conditions.
On a beaucoup parlé de France Télécom aussi, effectivement. Mais alors, ça existe aussi, dans le privé, les suicides.
Voilà, dans les entreprises. Bon, mais apparemment, le harcèlement dans les services publics, c'est quelque chose qui fonctionne bien, il faut croire, puisque on a aussi un taux de suicide très important ici. Alors, est-ce que tu as suivi l'actualité de Nicolas Sarkozy, qui leur refait le coup, ce qu'il avait fait en 2007. Il faut que vous travailliez plus
pour gagner moins.
Oui, alors, voilà, donc ça, c'est ce qu'il avait dit en 2007, mais manque de chance, il l'a pas appliqué depuis, donc il revient là-dessus en 2012. Il est jamais trop tard pour bien faire.
Parce que c'est gagné moins pour une bonne raison, c'est que les enseignants du primaire et du maternel, qui sont différents, en primaire, ils font 18 heures. Qu'est-ce que je dis en primaire? Ils font 26 heures. Et ils sont payés à plein taux. Enfin, voilà. Et les autres ne font que 18 heures. Il est question de les mettre à 26 heures comme les autres.
Tu parles des enseignants du collège.
Du collège, absolument, oui.
Le
collège
primaire et le
18
collège.
Heures, le primaire, oui.
18 à 20.
Okay, 18 à 26 heures, mais pour le même tarif.
Voilà. Alors, effectivement, il propose une augmentation de 500 euros, pardon, par mois. Pour faire 26 heures au lieu de 18 de présence. C'est 18 heures de présence. Calcul fait par les syndicats, c'est 40 44% de plus de temps de présence pour 25% de plus de salaire. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'en fait, les syndicats se sont un peu penchés sur la question. Et Sarkozy explique ça pour une raison simple, c'est que il risque d'y avoir 3 heures de plus de face à face avec les élèves, et le reste ce sera de la présence. Et donc, les horaires seront moins bien payés que des horaires de cours normales. Le problème, c'est qu'effectivement, à ce ratio-là, finalement, les professeurs y perdent en fin de temps de travail. Et... Alors, les syndicats, eux, faut remarquer que finalement, les heures supplémentaires existent déjà dans l'éducation nationale, et que c'est justement Sarkozy les a beaucoup utilisées parce que il n'a pas remplacé les enseignants. Enfin, c'est la politique de réduction d'effectifs dans l'éducation nationale qui contraint les profs à faire plus d'heures supplémentaires, et que finalement actuellement les heures supplémentaires sont bien plus rentables que l'augmentation qu'ils proposent. Et donc ce qu'on a envie de dire, c'est que simplement ce type de déclaration met en lumière, c'est simplement la baisse régulière, en fait, le non-renouvellement d'un professeur sur deux parti à la retraite qui finalement pénalise toute l'éducation nationale et qui crée des trous et qui oblige les professeurs à faire beaucoup plus d'heures. Donc elle va se poursuivre en 2013, puisque concrètement Sarkozy reconnaît que s'il est réélu, ça mènera à une suppression de 7000 postes en 2013, ce qui est énorme, quoi.
Alors, je me suis un peu embrouillé tout à l'heure sur effectivement maternelle, collège, etc. Il faut savoir que les enseignants de collège, les 18 heures dont tu parles, c'est des 18 heures de face à face pédagogique avec les élèves dans la classe. Bon. Les 26 heures en primaire, c'est pareil, face à face pédagogique. Il faut savoir qu'à côté du face à face pédagogique, il y a tout le travail en amont et en aval, c'est-à-dire les préparations de cours, les corrections, les suivis individualisés des élèves en difficulté, qui étaient en maternelle et en primaire, c'était suivi par les RASED, ce qu'on appelle les instituteurs spécialisés, hein, qui s'occupaient également de l'éducatif, etc. Maintenant, ça a été détruit par Sarkozy. Comme Sarkozy a également détruit tout ce qui est formation de l'enseignement, hein, donc voilà, donc les UFM après. Donc tout ça, c'est des bonnes paroles, c'est encore dire aux gens travaillez plus pour gagner moins, parce que quand tu parles de 500 € supplémentaires, c'est vrai. Mais moi, quand je disais qu'ils gagnaient moins, c'est parce que les 26 heures, ils les font déjà. Les enseignants du collège,
oui.
Ils font déjà. Donc tu vois, c'est
voilà. Donc bon, voilà. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, on ne sait pas si Sarkozy tiendra ses promesses de campagne, puisque voilà, déjà en 2007, il avait déjà promis la même chose. Alors il y a quand même d'autres propositions. C'était dans son discours de Montpellier, donc mettre fin au collège unique. Alors je rappelle que le collège unique a été créé en 1975 et qu'au départ, il s'agissait de démocratiser l'enseignement en accueillant tous les élèves au collège et donc de leur dispenser le même enseignement. Et en fait, il paraît que c'est un débat qui est récurrent. C'est-à-dire entre élèves qui seraient prédisposés aux techniques et qu'il faudrait tout de suite orienter dans le technique, ou élèves qui, sachant que ça joue plus tard sur leur carrière et sur leur parcours professionnel, hein, en termes de rémunération, ou est-ce qu'il faudrait au contraire les garder le plus loin possible pour avoir un maximum de chances d'accéder au travail, au monde du travail. Je souhaite un avis sur cette question, Gilles.
Ben, moi, je considère qu'effectivement, c'est très très UMP comme décision, ça. Combattre le collège unique, ça veut dire effectivement faire une maternelle, une primaire et un collège d'excellence, c'est-à-dire repérer dès le plus jeune âge les enfants qui sont susceptibles d'aller dans tel ou tel métier. Mais de toute façon, le chômage est partout. Donc, il n'y a pas de métier qui pourrait... voilà. Donc, tout ça, c'est du baratin. C'est des effets d'annonce, comme d'habitude. Le problème que se pose l'éducation nationale depuis 40 ans, c'est au niveau des méthodes pédagogiques pour que les enfants apprennent à lire et à écrire d'une façon correcte. Hein, c'est ça la vraie question qu'on devrait se poser. C'est-à-dire,
contre toutes les réformes
la méthode,
successives.
Est-ce que c'est la méthode la méthode globale, etc. Ça, c'est des débats réels. Mais par contre, ce que tu viens de dire, c'est une information réelle, mais elle n'amène sur rien, parce que ça, c'est encore une effet d'annonce qui va aboutir nulle part.
Alors les syndicats disent qu'implicitement, c'est accepter la sélectivité du système, c'est-à-dire que pour que certains réussissent, il faut que certains échouent. En résumé, c'est ça, hein, puisque à l'arrivée, il y en a qui vont réussir, autant orienter tout de suite ceux qui sont pas pour. Et puis il y a une autre proposition qui est le retour des professeurs polyvalents en 6e et en 5e. Alors les professeurs polyvalents, c'est quoi? C'est des professeurs qui seront chargés de d'enseigner par exemple toutes les matières littéraires
sur 40 écoles différentes.
Toutes les matières littéraires d'une histoire, français, anglais, oui, par exemple, et un autre professeur qui est chargé de d'enseigner toutes les matières scientifiques, ce qui fait qu'en fait on détruirait ce qui fait la
spécificité de
l'enseignant actuellement, c'est-à-dire d'avoir réussi un concours dans sa matière proprement dit. Et donc il paraît que ça existait déjà auparavant, puisque c'était des anciens instituteurs qui dans un premier temps assuraient l'enseignant pour les sixièmes et les cinquièmes. Et je sais pas, t'as un avis sur cette question?
Bah oui, parce que moi j'ai reçu une annonce, parce que moi je suis actuellement chômeur, donc tout le monde le sait, parce que
émission sur le chômage, ça tombe bien.
Voilà, donc ça fait 4 mois que je suis au chômage de façon réelle. Voilà, j'ai reçu une annonce comme quoi, comme j'avais été formateur d'adultes pendant un certain temps, on m'a proposé de faire effectivement de l'enseignement chez des élèves de collège sur l'histoire, la géographie et les mathématiques.
Voilà.
Le problème, c'est que je suis ni spécialisé en histoire ni en géographie, et je suis très très mauvais en mathématiques. Donc j'ai dit merci beaucoup, au revoir. Bon. Donc le problème qui se pose là, c'est qu'effectivement, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ça s'appelle des professeurs volants qui vont enseigner plusieurs matières donc qu'ils ne maîtrisent absolument pas ou très peu. Et surtout, ça va être aussi des volants sur différentes écoles, parce que en fait, les matières, par exemple, tu prends le français en collège, ça va être par exemple si c'est ça va être peut-être 4 heures ou 5 heures de français par semaine. Mais que va faire le prof après? Il n'aura que 5 heures de salaire? Non, il va faire 5 heures dans une autre école qui va se retrouver à 50 km de là où il habite. Sarkozy détruit depuis qu'il est au pouvoir, même bien avant puisqu'il était également ministre, dans un gouvernement qui détruisait aussi, l'éducation nationale s'est détruite complètement. Mmh. L'hôpital s'est détruit. Tout est détruit. Voilà.
On a l'impression qu'il n'est pas le seul quand même. Hein.
Il n'est pas le seul.
Donc on va finir sur les professeurs. Si nos invités ont des remarques sur l'éducation nationale, comment ils ont géré l'éducation nationale de leurs enfants.
Merci.
Entièrement d'accord.
Bon, donc voilà, alors on va passer aux salariés de Florange. Donc les salariés de Florange, vous le savez, sont en grève. On n'en parle plus que les enquêteurs INSEE. Et ils ont décidé de bloquer la gare d'approvisionnement, la ligne de chemin de fer d'approvisionnement de leur usine, de départ et d'arrivée de leur usine. Et ils avaient tenté de bloquer la ligne de chemin de fer qui reliait la France au Luxembourg, mais ils ont été délogés par les gendarmes mobiles. Et donc ils essayent, tant qu'à faire, de ralentir, de faire perdre au moins pendant 24 heures le contrôle de l'usine au patron. Donc c'est la cinquième action coup de poing. Alors il faut rappeler qu'en fait la fermeture du haut fourneau de Florange risque de supprimer 600 emplois sur 1000 personnes. C'est un peu une réédite de Gandrange, et que les promesses de Sarkozy en fait ne sont pas du tout convaincantes pour le moment, puisque il a effectivement contacté Monsieur Mittal et il s'est assuré, dit-il, auprès de Monsieur Mittal, que le four reprenne au mois de mai
pour 2 millions d'euros.
Voilà. Ouais, exactement, pour 2 millions d'euros sur les 17 millions d'investissements dans d'autres choses. Sauf que Monsieur Mittal, si l'on en croit Libération de ce matin, confirme que l'activité ne reprendra que si l'activité économique va mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse de 25% de demande de l'acier en Europe. Donc en mai, il faudrait que l'activité aille mieux pour que le site redémarre. Bon, pour les syndicats, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Et qu'une fois de plus, finalement, les déclarations de pré-campagne ne reste lettre morte, ou de post-campagne reste lettre morte, et que le site ferme à nouveau.
Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que M. Sarkozy a annoncé ça à la télévision devant 6 millions de personnes. Donc M. Sarkozy est un chauffeur de salle. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la décision avec ArcelorMittal a été prise bien avant que M. Sarkozy le dise à la télévision. C'est-à-dire que les syndicats ont dit que les choses n'avaient été changées.
Que les 2 millions d'investissements avaient été déjà programmés.
Absolument. Donc il n'a fait qu'annoncer quelque chose qu'il avait déjà dans sa poche. Voilà. J'ai rien à dire.
Donc quand on parle de réindustrialisation, on sait en tout cas que l'État a perdu depuis longtemps la main sur sa capacité à intervenir dans son tissu, dans son industrie, en tout cas son industrie métallurgique en l'occurrence. Écoutez, cette émission va se terminer. La semaine prochaine, vous... Oui, Christine ?
J'aimerais simplement rajouter une petite chose qui me chagrine un peu. Tout à l'heure, j'ai parlé des cités, c'est vrai que c'est un point fort, mais je voudrais dire que dans les cités, il y a des bonnes choses qui s'y passent aussi. Et je voulais dire aussi, par rapport aux jeunes que je rencontre, eh bien, des fois, je suis davantage considérée par ces jeunes que par l'INSEE.
Voilà, ou voilà. Par des jeunes
que ce soit dit,
avocats, des notaires, ou, etc. Voilà, il fallait que ce soit dit. Eh bien, cette émission se termine. La semaine prochaine, ce sera l'émission d'Attaque le PIAF. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours.
Salut.
Merci à vous. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-